Radio Éthique vous propose une info durable réalisée par Pascal Marcadji.
Vous avez sans doute entendu parler du puçage obligatoire des brebis de pâturage. Les brebis de pâturage, celles qui mangent de l'herbe, ça devient rare. Les éleveurs eux-mêmes sont minoritaires. Ils font figure d'empêcheurs de tourner en rond. Leurs bêtes devront désormais avoir la puce à l'oreille. C'est le titre de l'excellent film documentaire réalisé par Antoine Costa et Florian Pourchy. Mouton 2.0, la puce à l'oreille, Florian Pourchy.
Je suis originaire d'une région d'élevage transhumain, entre la Drôme, les Alpes-de-Haute-Provence et le sud des Hautes-Alpes. Et je suivais des éleveurs déjà qui refusaient de vacciner leurs bêtes. Il y avait une obligation de vacciner les brebis il y a 5-6 ans contre la fièvre catarrhale ovine, qui était déjà une grosse blague, puisque c'était une maladie qui n'était pas transmissible, ni à l'homme ni entre les brebis. Et on a fait croire qu'il fallait vacciner toutes les brebis pour des raisons sanitaires, alors que c'est juste un gros coup de lobbying de la part d'un laboratoire pharmaceutique. Les éleveurs qui ont refusé, ils se retrouvent au tribunal et ils ont tous gagné parce que des vétérinaires ont montré que c'était pire pour la santé de la bête de la vacciner que de ne pas la vacciner. Donc voilà, j'étais un peu baigné là-dedans. De là, les mêmes collectifs qui s'étaient montés contre la vaccination se sont mis à se battre contre le puçage électronique. Et donc c'est un peu en collaboration avec ces éleveurs-là qu'on s'est dit « Allez, on part sur un film ensemble ». Et on essaye de le faire vite pour qu'il puisse rentrer dans le calendrier législatif et donc un peu servir à la lutte des éleveurs.
En mai dernier est sorti du chapeau administratif l'obligation du puçage des brebis de pâturage de plus de 6 mois. Entendez, chaque bête déjà obligatoirement étiquetée aux 2 oreilles, sait-on jamais, on peut en perdre une d'étiquette, doit désormais faire bip bip comme une caisse de supermarché au nom d'une hypothétique traçabilité.
C'est soi-disant sur un principe pour augmenter la traçabilité, mieux savoir d'où viendrait la viande, bon, sachant que déjà c'est faux parce qu'on... Enfin, il y a déjà une part de traçabilité qui, dans un certain cas, permet de savoir d'où ça vient et dans d'autres cas, ne permet pas de le savoir. Et on sait très bien qu'on pourra rajouter tant qu'on veut des gadgets, même électroniques. On continuera à ne pas savoir d'où viennent certaines viandes et d'autres, par contre, on continuera à le savoir, quoi. Donc la traçabilité, c'est un peu une farce. On est arrivé à essayer de faire croire aux consommateurs que la traçabilité était... directement synonyme de qualité, c'est pas du tout un symbole de qualité, et on le voit d'autant mieux en ce moment avec les questions de crise sanitaire dans lesquelles on est, enfin de soi-disant de crise quoi. Donc c'est pas du tout ça qui permet d'améliorer la qualité de la viande ou d'améliorer quoi que ce soit, c'est juste pour faire, enfin l'industrie agroalimentaire pour faire croire qu'elle fait des choses pour être un peu plus acceptable, mais la meilleure traçabilité qui existe c'est la traçabilité confiance. Et c'est celle de savoir exactement d'où vient ce qu'on mange et de connaître les personnes qui produisent, quoi, et de se retrouver maître en fait de ce qu'on mange, quoi.
La traçabilité, impossible en France d'entrer dans un abattoir, c'est Fort Knox, strictement interdit même aux éleveurs. Aucun éleveur en France n'a le droit d'y mettre les pieds. Sachez qu'il y a des éleveurs qui n'y ont pas tout à fait retrouvé leurs petits sans avoir leur mot à dire. Pourquoi ce puçage ? Tout ce qui sort du rang hérite de façon systématique les poils et cela ne semble décidément pas se limiter aux moutons.
En plus, au même moment où ça passe l'identification électronique des brebis, on a le passeport qui devient obligatoire et biométrique. En France, donc là pour les humains, et voilà le rapport, on est tous des moutons, et là c'était des moutons, c'est vrai que voilà il y avait un parallèle qui est un peu servi sur un plateau, mais ouais, on l'a volontairement laissé en trame de fond en fait quoi, c'était la chose qu'on voulait que le spectateur aille par lui-même et pose les questions et le voit dans l'angle qu'il avait envie de le voir et puisse le ressentir quoi, donc c'est pour ça qu'on le suggère un peu. Tout au long du film, mais de manière, je pense, juste légère, quoi, en fait.
Mouton 2.0, la puce à l'oreille, est enrichi de reportages des années 1966-1968. En particulier, on voit ce que l'on appelle la fistule. Entendez, carrément un trou dans la panse de la vache que les chercheurs ouvrent pour plonger la main dedans et referment. Très pratique pour voir ce que la bête est en train de ruminer. À l'époque, aussi bien la recherche que les journalistes posaient des questions, semble-t-il, ville sans moins tourner autour du pot. Les choses semblaient plus dites, moins subreptices qu'aujourd'hui.
Alors c'était une époque particulière quand même, parce que c'était l'apogée des modernisateurs. Et donc il y avait un ton très libre qui s'employait. Il y avait une fierté de la part de ces scientifiques-là, des modernisateurs, de la logique productiviste, et même ceux qui étaient contre. Enfin, ils rentraient dedans, mais ouais, il y avait une volonté très 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 forte, puis il y avait un ton très clair qui était porté. Bon, on a vu l'échec qu'a été la logique productiviste, et maintenant, en fait, on ne peut plus nous resservir ces discours-là si franchement, et on voit que donc il y a une langue de bois qui est mise maintenant dans les institutions de recherche agricole, par exemple, parce qu'ils savent très bien que c'est plus tant que ça entendable, en fait, ces propos-là. Donc tout ce qui se fait, maintenant, c'est très dur de faire rentrer une caméra, de montrer les expérimentations et d'avoir des gens qui en parlent de manière si libérée, en fait, quoi. Nous, quand on a été à l'INRA de Toulouse pour le film, voilà, la principale personne à qui on a affaire, c'était l'attaché de com de l'INRA, qui, lui, est là pour essayer que tout rentre bien dans le plan de communication extérieure de l'institut scientifique, quoi. Ils ont appris, pas forcément de leurs erreurs, mais juste de l'image, en fait, quoi.
Nos bêtes ne sont pas des machines, s'indigne un éleveur. Et de fait, alors que le pâturage privilégie le lien avec les bêtes, la puce à l'oreille, en fait de traçabilité, le supprime au profit du lien avec l'industrie. Épisode éloquent, les éleveurs sont venus à plus de 200 occuper la maison de l'élevage de Manosque. Il leur est rétorqué qu'eux aussi sont inexistants.
C'était une des premières actions médiatiques qu'ils faisaient, quoi. C'était un moment où ils venaient de se monter, ils avaient déjà pas mal de fois tracté sur des marchés, ils essayaient de faire parler autour de lois qui étaient difficiles à comprendre. Il faut faire preuve de beaucoup de pédagogie, en fait, pour arriver à expliquer aux consommateurs, à tout le monde, en quoi justement la traçabilité n'est pas un synonyme de qualité, pourquoi cette puce n'apporte rien de plus, et encore pourquoi en plus elle les dérange sur des points de vue politiques, philosophiques, éthiques. En 2011, juste avant de monter à l'alpage, donc, parce que les éleveurs donc, sont dans des zones transhumantes, partent 3-4 mois en estive. Ils ont choisi de faire une action, donc celle qu'on a dans le film juste avant. Ça avait comme but d'alerter un peu les médias locaux, puis aussi de les fédérer entre eux avant cette période de pause, quoi, où ils pourraient plus se voir et plus rien faire. Donc ils ont décidé d'aller occuper la maison de l'élevage de Manosque. Et arrivé là-bas, le président de cette maison les appelle donc au téléphone, ce qu'on voit dans le film, et leur dit qu'ils n'ont aucune légitimité à faire ça parce qu'ils ne sont pas une association reconnue, parce qu'ils ne sont pas un syndicat. Guibert, qu'on a dans le film, donc leur répond très bien en leur disant que si, ils ont la légitimité parce qu'ils sont quand même éleveurs, ils sont nombreux, et c'est pas parce qu'ils sont pas d'un syndicat ou d'une association reconnue qu'ils n'ont pas le droit de défendre leur position. Et on voit vraiment, c'est tout à fait symbolique de la société dans laquelle on est, d'une certaine vision de la démocratie qui voudrait que on n'ait que des interlocuteurs définis et entendables et qui ont leur propre fonction et qui ne dépassent pas leur cadre habituel qu'on leur donne, quoi. Et là, un collectif informel, ça, quelque part, ça fait peur.
Juste avant la projection de Mouton 2.0, la puce à l'oreille, Florian Pourchy a tenu à lire un texte. En substance, ce n'est pas parce que nous avons été sélectionnés par le Festival international du film d'environnement organisé par la région Île-de-France que nous marchons dans la combine, en substance. Car les régions françaises orchestrent cette mise en coupe réglée avec l'aval de l'État et de Bruxelles plutôt qu'elles ne protègent l'élevage. En substance toujours, l'organisation du festival s'est sentie sur le coup un peu prise à contre-pied, mais le public a applaudi.
Alors c'était une petite mise au point, en fait. Pour nous c'était assez compliqué. Enfin, on avait d'un côté la satisfaction de pouvoir rencontrer un public citadin qui est des fois pas facile à toucher, donc grâce au FIFE là. Mais à la fois, c'est pas un festival comme les autres, parce qu'il est organisé par la région Île-de-France. Quoi. C'est même pas qu'il est soutenu, en fait. Il est vraiment organisé de toutes pièces, donc par la région. Et nous, on ne pouvait pas ne rien dire, en fait, sur l'orientation politique de la région, qui est une orientation PS, à soutien vert, comme il y a dans la plupart des régions de France et donc au sommet de l'État. Sur un point de vue écologique, en gros, le texte disait que ben pour la région comme pour l'État, c'est beaucoup plus facile de financer un festival sur l'environnement ou de financer des grosses campagnes de greenwashing pour peindre en vert et dire on fait des choses sur l'écologie de manière un peu coup de projecteur, plutôt que le faire dans le réel. Parce que dans le réel, si on regarde, c'est pas glorieux. Et actuellement, l'État et les régions sont plutôt dans une phase répressive à envoyer les CRS et les lacrymos à chaque fois qu'il y a une lutte qui est en train de se faire pour l'environnement. On le voit en ce moment à Notre-Dame-des-Landes, on le voit sur le Lyon-Turin, un peu plus dans le sud. On le voit aussi dans le Cotentin, sur la ligne THT, donc pour transporter le nucléaire de l'EPR de Flamanville, avec encore il y a 3 jours un agriculteur qui s'est vu installer de force un pylône escorté par les CRS sur son terrain. Donc quand là sur le FIFE, le thème c'est l'environnement et construire, c'est quoi demain s'invente ici, non, mais c'est dans 30 ans quoi, c'est qu'est-ce qu'on fera dans 30 ans, bah voilà, ça c'est pas très... On a du mal à être optimiste quand on voit la réalité du terrain et nous on était un peu mal à l'aise parce qu'on pense aux copains qui sont actuellement vraiment en train d'en chier sur le terrain, certains qui sont des fois sous contrôle judiciaire.
Voilà, Mouton 2.0, la puce à l'oreille. Pour ceux qui connaissent déjà cette réalité, ils conviendront que ce documentaire est très fouillé. Pour les autres, pour avoir la puce à l'oreille, justement, le film est mis à disposition, gratuite pour toute projection, dans les écoles ou autres établissements. Le DVD, lui, est en vente au tarif très raisonnable de 10 euros sur le site www.mouton-lefilm.fr, où il sera en diffusion intégrale et gratuite également sur Internet.
C'était une interview réalisée par Pascal Marcaggi.